Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va nous dire comment on en est arrivé à révoquer l'édit de Nantes. Quelle musique accompagnera cette dramatique mesure?
Aujourd'hui, nous bouleversons la chronologie pour les besoins de l'histoire. Il m'a semblé devoir accorder à ces derniers huguenots de chez nous la grâce d'entendre une dernière fois des psaumes chantés au siècle précédent, sous le règne de Charles IX, alors qu'ils avaient la liberté de pratiquer leur religion. Ce seront des œuvres de Philibert Jambes de Fer. Pourquoi ce nom si imagé, je n'ai pas réussi à le savoir. De Philibert Jambes de Fer, donc, et de Crasso, deux musiciens du XVIe siècle, pratiquement inconnus, sans doute parce qu'ils étaient spécialisés dans la musique sacrée de l'Église réformée. Des extraits des psaumes 94 au début et 51 à la fin. Par ailleurs, nous ferons un grand saut dans le XXe siècle quand nous assisterons à un auto-da-fé. Et j'ai choisi, pour accompagner cet auto-da-fé, aussi criminels que stupides comme ils le sont tous, la fameuse danse du sabre du compositeur russe Khatchatourian.
Louis XIII avait laissé aux protestants la liberté de conscience. Louis XIV et l'Église catholique, dans un premier temps, n'avaient pas retiré ce droit aux protestants, mais les avaient soumis à de nombreuses contraintes, vexations et désavantages. Ces mesures sont pourtant insuffisantes pour venir à bout des protestants. Et au mois d'août 1685, Monsieur Julien, quatre compagnies de dragons arrivent à Saint-Antonin.
Oui, avant de poursuivre, permets-moi et permettez-moi, chers auditeurs, de rendre hommage à un historien saint-antoninois, en l'espèce Jean Donat, ancien président de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, qui, entre autres travaux de recherche, a écrit et publié en 1932 un travail très important et à mon avis excellent sur le mouvement protestant et la révocation de l'édit de Nantes à Saint-Antonin. C'est en grande partie dans cette brochure que j'ai choisi et tiré les documents que je vais présenter dans cette émission, que j'avais présenté dans l'émission dernière. En outre, le texte qui sera lu en fin d'émission a été extrait de l'histoire de Latouche, ancien archiviste départemental du Tarn-et-Garonne, page d'histoire de Saint-Antonin. Je tenais à rendre hommage à ceux qui, avant moi, ont fait des recherches qui m'ont été très utiles. Donc, le 27 août 1685, sur l'instante et irrésistible invitation de M. Thibault, commissaire des guerres, qui commande les quatre compagnies de dragons arrivés le 22 août précédent dans notre ville, 210 notables protestants sont autorisés, je place ça entre guillemets, il faudrait dire contraints, à s'assembler dans la grande salle de la maison commune pour se concerter et délibérer. On compte parmi ces 210 chefs de famille 12 bourgeois, 18 marchands, 5 avocats ou hommes de loi, 2 notaires, 5 chirurgiens et en outre un grand nombre d'artisans, en particulier des tailleurs et des sergers. Après délibération, il déclare dans le procès-verbal qui figure dans les registres de catholicité de la paroisse, il déclare devant le commissaire des guerres, je cite, sur ce que M. de Thibault, commissaire des guerres, nous a représenté que Sa Majesté désirait nous voir réunis dans l'Église apostolique romaine et nous ayant permis de nous assembler, quel euphémisme, après avoir mûrement délibéré, ayant reconnu qu'il n'y a point de cause légitime pour demeurer séparés, avons décidé de rentrer sous son glorieux règne dans le sein de l'Église catholique apostolique romaine et d'y vivre et d'y mourir, en foi de quoi nous avons signé en présence de M. Thibault, et il faudrait ajouter, et sous la pression de M. Thibault, qui a signé avec ceux de nous qui savent signer, les autres ayant dit ne savoir. Et on compte 59 signatures sur 210. N'est-ce pas étonnant? Alors que ces 210, vous l'avez vu, ce sont des gens de la classe aisée et que ce sont des artisans. Nous savons que tous ces gens-là savaient signer, mais il y avait déjà, vous voyez, une sorte de mesure conservatoire parmi beaucoup d'entre eux. Après tout, ils pourraient dire plus tard qu'ils n'avaient pas signé. C'est en se tenant à peine les signatures posées et l'encre séchée, le sieur de Thibault, commissaire des guerres, conduit les délibérants à l'église en cortège et dit le texte avec la joie et l'acclamation de tous les peuples. Je me demande un peu pourquoi ce pluriel. On force un peu les choses, là, hein. On les conduit à l'église où ils sont réunis et réconciliés par le frère Jean-Jacques Pomereau, curé de la paroisse, et tous les consuls. Évidemment tout cela, mais on oublie de le dire, sous la ferme et effrayante escorte des compagnies de dragons qui font la haie. Tout le monde n'a pas à jurer en cette sinistre journée. Il faudra contraindre les absents. Et surtout, dit le curé Pomereau qui tient ses comptes à jour, ce qui est étonnant, surtout les femmes et les filles qui ont fait plus de résistance. Quel aveu, mais aussi quel compliment pour les femmes et les filles, dont on sait bien qu'elles sont toujours les plus fermes dans leurs opinions, même aujourd'hui. Pourtant, tout est mis en œuvre pour atteindre le but. Les dragons font du zèle. Tout le clergé est en chasse. Et le vicaire général de Rodez en personne participe à l'œuvre de salut avec le directeur du séminaire de Rodez. Et jour après jour, à partir du 26 août, on enregistre ainsi, laborieusement, sur le registre d'état civil, de nouvelles abjurations, et surtout, c'est vrai, de femmes et de filles, que l'on a enfin décidé à venir jusque-là. Et alors, on peut, abusivement, informer Monseigneur l'intendant que le nettoyage, entre guillemets, est achevé. Alors, comme des mesures semblables avaient été prises dans toutes les provinces abritant de nombreux protestants, le roi promulgue, le 22 octobre 1685, le sinistre édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes et supprime la liberté de conscience. Comment peut-on trouver encore des Français qui puissent admirer Louis XIV, eux qui, si souvent aujourd'hui, se déclarent farouches partisans des droits de l'homme? Les droits de l'homme, oui, chez les autres et chez soi.
Oui, monsieur Julien, une chanson d'Yves Duteil dit « Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire et puis la façon dont on la raconte ».
Bien sûr.
Et les manuels d'histoire de France ont décrit aux écoliers français Louis XIV certainement bien différent de celui qu'ont connu nos ancêtres de Saint-Antonin au XVIIe siècle.
Oui, à mon avis, oui, c'est regrettable.
Mais tout de même, monsieur Julien, parmi les catholiques, il en était certainement de très attaché à la morale chrétienne, à la bonté, la générosité, la fraternité. Est-ce qu'ils acceptaient facilement ces mesures répressives prises au nom de leur religion? Est-ce qu'ils ne se souvenaient pas et ne faisaient pas le parallèle avec les premiers martyrs catholiques, peut-être?
Bon, il n'est pas douteux que, la grande majorité des catholiques saint-antoninois présents n'a pas approuvé ces mesures de répression, ces mesures de contrainte, ces mesures contre les protestants. Sinon, il y aurait eu une sorte de boycott, déjà depuis longtemps, contre les protestants, s'ils les avaient considérés comme des ennemis. Seulement ça n'apparaît pas dans les documents officiels de la Commune. La Commune n'enregistre que dans ses procès-verbaux de séance du Conseil de Ville et dans ses registres d'état civil que ce qu'il doit être enregistré officiellement. Et il n'est pas question de marquer dans ses registres des protestations quelconques qui auraient l'air d'aller contre les décisions royales. N'oublions pas qu'à ce moment-là, les dragons sont là. C'est le régime de la terreur, c'est le régime totalitaire dans sa plus abjecte expression et qu'il faut se taire. N'empêche que, j'en suis persuadé, la quasi-totalité des travailleurs catholiques, des hommes du peuple catholique, réprouvaient ces mesures, incontestablement. Ce sont des mesures politiques, ce ne sont pas des mesures humanitaires ni religieuses. À partir du 23 octobre 1685, donc, nul sujet français ne peut avoir d'autre religion que la catholique, faute d'être rebelle au roi. Alors c'est la fournée des conversions des protestants jusque-là obstinés. Et le 1er novembre 1685, le curé Pomereau, prieur du chapitre, peut assurer Monseigneur l'intendant que toute la ville était rentrée dans le giron de l'Église catholique. Il avait enregistré ce jour-là, ce 1er novembre, 673 abjurations, conversions. En grande majorité des femmes restaient les plus récalcitrantes. Et le 11 novembre, fier de lui, il dresse, comme il dit, un fidèle catalogue des abjurations reçues depuis le 22 août jusqu'au 1er novembre qu'il adresse à Sa Majesté. Nous l'avons, ce catalogue. Il figure dans le registre GG5. D'état civil de nos archives communales. C'est une pièce importante. Mais malgré les assurances du curé données à Monseigneur l'intendant, tous les protestants n'ont pas abjuré encore, puisque il va encore, ce même Pomereau, enregistrer quelques conversions. La dernière étant inscrite à la date du 1er avril 1687. Presque 2 ans après la révocation. Au total, le chiffre officiel des conversions enregistrées s'élève à 1050 entre 1674 et 1687. Ce nombre ne prend pas en compte, attention, les enfants au-dessous de 14 ans, garçons et filles, les dits étant cessés, disait-on, étant censés, excusez-moi, les dits garçons et filles étant censés catholiques par l'abjuration même de leur père et mère. On pourrait en déduire que le nombre de protestants restés fidèles malgré les sollicitations, menaces et persécutions s'élevait à 1200 à la fin du XVIIe siècle dans notre ville. Hein. C'est un chiffre très remarquable, mais à mon sens encore inférieur à la situation réelle. On peut dire que, même après les persécutions, les trois quarts de la population saint-antoninoise étaient restés encore protestantes. Il restera encore, après 1685, en dépit du danger que cela représente, des réfractaires qui braveront les galères et la prison. La preuve en est, cette terrible mesure prise contre ceux qui sont morts sans les sacrements de l'Église, par la déclaration royale du 29 avril 1686, 6 mois après la révocation, ce texte ignoble visant les protestants endurcis prescrit. Nous ordonnons, c'est Louis XIV qui parle, que le procès sera fait aux cadavres ou à leur mémoire de ceux qui n'ont pas abjuré, n'est-ce pas ? Et qu'ils seront traînés sur la clé, jetés à la voirie et leurs biens confisqués. C'est en vertu de cette sinistre sentence que le cadavre de la femme du sieur Jaco de Caussade, qui n'avait pas voulu recevoir l'extrême-onction alors qu'elle était venue mourir dans cette ville, fut exhumé et traîné à travers notre ville sur une clé par le bourreau, et son cadavre jeté à la voirie. C'est depuis cette date, bien sûr, que les corps des protestants décédés seront enterrés clandestinement par leurs proches, dans les jardins, les chènevières ou les petits champs autour de notre ville. Eh oui, mais en dépit de tout, il reste encore des protestants après 1685. Ne serait-ce que ceux qui, nombreux parmi les nouveaux convertis, ne font pas régulièrement leur devoir de catholiques, refusent d'envoyer leurs enfants aux écoles, ne font pas leur Pâques et contre lesquels des mesures vont être prises. On invite les prêtres et les bons catholiques, dit-on, à les dénoncer. Quelle époque ! Et on poursuit. En janvier 1686, par ordre de l'intendant, le 30 janvier exactement, sur la place que nous appelons aujourd'hui place de la Halle, devant l'ancien hôtel de ville, on établit un énorme monceau de tous les livres détenus par les nouveaux convertis, par les protestants qui se sont convertis, qui ont été invités à venir déposer à l'hôtel de ville dans la semaine précédente tous les livres interdits. Et que sont ces livres interdits ? Ce sont des livres de psaumes, ce sont des livres de doctrine chrétienne, ce sont des livres qui parlent de Jésus-Christ. On en compte, ou du moins le secrétaire de l'hôtel de ville qui en a fait l'inventaire que nous avons dans nos archives en compte, 725. Et on y met le feu. C'est un auto-da-fé. Dans ces conditions, vous le comprenez bien, on ne doit pas s'étonner que le mouvement d'émigration vers l'étranger des protestants, qui avait commencé sérieusement dès 1684, se soit accéléré en 1685 et se soit poursuivi après, jusqu'en 1702, où les nouveaux convertis, ne pouvant plus supporter ni le reniement de leur foi, ni l'arrogant triomphe des catholiques, ou du moins de certains, ni ce climat permanent de suspicion et de haine, ces nouveaux convertis, ne pouvant supporter tout cela, prendront le chemin de l'exil vers Genève, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, emportant avec eux leur jeunesse, leur intelligence et leur force, privant ainsi notre ville d'une richesse humaine qu'elle ne retrouvera jamais plus. Appauvrissement fatal, qui à lui seul peut expliquer, me semble-t-il, le lent mais inexorable déclin que va connaître notre ville et notre commune à partir de cette date.
Est-ce qu'on peut estimer le nombre de familles protestantes qui ont quitté Saint-Antonin ?
Officiellement, nous avons un état de ceux qui se sont exilés, de ceux qui sont partis, parce que le pouvoir a exigé qu'on en fasse l'inventaire, si on peut dire, de ces gens pour poursuivre soit leurs parents, soit pour confisquer leurs biens. Il s'avère que cet état en révèle 150. Est-ce à dire que c'est l'atout ? Non, vraisemblablement pas. Il a dû en passer à travers les mailles. Enfin, 150, c'est déjà quand même, me semble-t-il, important. Ces documents, la liste des abjurations, liste de ceux qui ont émigré, figurent aussi dans nos archives communales. Ce sont vraiment des documents précieux, qui sont d'ailleurs consultés annuellement par des gens que ça intéresse.
Dans Saint-Antonin, pendant une longue période, ont vécu ensemble des catholiques et des protestants. Est-ce qu'on peut observer entre les adeptes de ces deux doctrines des différences de comportement social ou économique ?
Mais il est clair que pour notre ville, et parce qu'elle était devenue protestante depuis le XVIe siècle, en ce qui regarde l'aspect économique et social, c'était évidemment les protestants qui occupaient le haut du pavé, si on peut dire, enfin, qui occupaient les charges qui, au plan économique, étaient les plus voyantes et les plus importantes. C'était la classe des marchands, c'était la classe des artisans, et c'était la classe des hommes de loi. Quand je parlais d'une richesse humaine qui était détruite, je crois que je n'exagérais pas. Hein. Et les catholiques, certes, il y avait aussi chez les catholiques quelques marchands, quelques hommes de loi, mais très peu, relativement peu. On le verra d'ailleurs dans une prochaine émission, lorsque des mesures très sévères seront prises contre les nouveaux convertis, qui seront exclus du consulat et du conseil politique, les consuls en place auront beaucoup de mal à trouver des candidats pour être consuls qui soient à la fois anciens catholiques et très fortement taillables, parce qu'il fallait qu'ils soient riches. Autrement dit, la richesse se trouvait entre les mains des protestants, ça c'est incontestable. Et leur départ a été catastrophique pour notre ville, je le crois.
Est-ce que certaines familles d'émigrés de cette époque-là sont revenues à Saint-Antonin quand leur religion était de nouveau tolérée ?
Ah oui, mais c'est que leur religion n'a été tolérée officiellement qu'en 1789, hein, avec la Révolution. On peut dire qu'en 1787, déjà 2 ans avant la Révolution française, Louis XVI avait pris une mesure d'apaisement. Par l'édit de 1787, les protestants qui existaient encore en France, donc il en a toujours existé, contrairement à ce qu'on peut penser, ont eu le droit d'avoir un état civil. Jusque-là, quiconque n'avait pas voulu abjurer, quiconque était resté ici protestant, on le tuait pas, mais il n'existait pas civilement, ils n'avaient pas d'existence légale, n'est-ce pas ? Et en 1787, il y a eu cet édit. Mais comment ? Imaginez qu'avec toutes les persécutions qu'ils vont subir, et qu'ils subiront encore quand, passé le règne de Louis XIV, viendra le règne de Louis XV, Louis XVI, qui malgré tout sont des monarques plus éclairés et plus tolérants, eh bien, comment pourraient-ils revenir ? Puisque même pendant le règne de Louis XV, il y a encore eu des persécutions contre les protestants. Leur exclusion du conseil politique, par exemple, a été décidée sous le règne de Louis XV. Alors on ne peut pas quand même imaginer que ces gens qui étaient partis dans les pays étrangers allaient revenir pour être persécutés. D'autant que, étant intelligents, ayant du savoir-faire, ils s'étaient installés là-bas dans ces pays. Ils y avaient acquis des situations enviables au niveau du commerce, au niveau de l'artisanat, au niveau de l'armée. Beaucoup d'entre eux étaient devenus d'ailleurs des officiers des armées de Prusse, de Hollande ou d'Angleterre. Et ils n'envisageaient pas du tout. Et alors quand la liberté leur reviendra du culte en 1789, il faut imaginer qu'ils sont morts depuis longtemps, ces gens qui se sont exilés, et que ce sont leurs petits-fils. Les petits-fils, ils sont bien là où ils sont, et ils ne reviennent pas en France. S'il en revient tous les ans de ses descendants de protestants, tous les ans, parce qu'ils recherchent leurs sources, eux aussi. Et depuis plusieurs années, je reçois plusieurs familles allemandes qui sont toutes, ces curieux, descendantes de Abel Coste, un teinturier saint-antoninois qui avait émigré en 1688, comme celui dont je vais parler tout à l'heure, là.
Est-ce que dans le royaume de France, dans certaines villes, les protestants avaient réussi à mieux résister qu'à Saint-Antonin et à rester en place ?
C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mieux résister. Je ne le sais pas, je ne pourrais pas trop le dire. Mais il a toujours resté un fond de protestantisme. Ce qu'on appelait les nouveaux convertis, ils ne l'étaient que de façade. En réalité, ils restaient protestants. Mais pour Saint-Antonin, il se trouve que l'élite de la société est partie. Je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes les villes. Et en tout cas, ça ne l'est pas pour certaines régions comme les Cévennes, par exemple, qui donneront à partir de 1602 cette fameuse révolte de Camisards, qui prouve que là était restée une élite, et une élite du moins religieuse, si ce n'était pas une élite économique, mais qui des hommes capables de se révolter. Or, on n'a pas assisté à ça à Saint-Antonin. Ils étaient partis, ceux qui auraient été capables de se révolter. Voici, pour conclure cette émission et résumer cette sinistre période, un texte. C'est ce qu'on appelle le journal de voyage de Pierre Vieuxceux, âgé de 20 ans, qui ne voulut pas aller à la messe et se retira à Genève. Ce texte a été publié en 1876 dans le bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme français, tome 25, et il est reproduit dans le livre de La Touche, page d'histoire sur Saint-Antonin. Voici ce texte. Mes chers enfants, les grâces que Dieu nous a données après le jour de ma naissance jusqu'à présent sont si grandes que j'ai cru devoir vous les laisser par écrit pour vous engager à lui en témoigner votre reconnaissance et à vous porter à le craindre, à l'aimer et de ne rien faire qui puisse lui déplaire, car les grâces qu'il m'a faites et les biens qu'il m'a donnés ont servi pour votre entretien, pour vous faire instruire et pour vous mettre en état de vivre commodément le reste de vos jours. Le bien que je vous laisserai après ma mort ne vient pas de mon patrimoine. C'est Dieu qui me l'a donné, car je suis venu à Genève avec rien. Je suis né à Saint-Antonin en Rouergue, le 30 octobre 1668, fils de Jean Vieuxceux orfèvre et de Jeanne Dufort, fille de Dufort apothicaire. Mon père était marchand de Saint-Antonin. Son négoce était de toiles et de draperies assez commodes et fort estimées. Il avait beaucoup d'amitié pour moi, étant l'aîné. J'avais beaucoup d'inclination d'apprendre à lire, écrire et connaître la religion. Je souhaitais même qu'il me fît instruire pour être ministre, mais mon père ne voulut pas me satisfaire là-dessus, me disant qu'il voulait que je fusse marchand. Je fis assez de progrès dans l'écriture et l'arithmétique, de manière qu'à l'âge de 10 ans que mon père fut élu consul, lui et ses collègues me firent vérifier les registres de la taille que le roi imposait sur les habitants du ressort de Saint-Antonin. Ce que je fis avec satisfaction, et, pour mes peines, me donnèrent 4 livres. Et tout jeune que j'étais, mon père me fit tenir dans sa boutique, de sorte que, à l'âge de 12 ans, je faisais les visites de même que lui et tenais la caisse de tout l'argent qu'il recevait, ce qui continua jusqu'en 1685, que le roi envoya des troupes à Saint-Antonin pour persécuter les gens de la religion réformée et les obliger d'embrasser la religion romaine, de sorte qu'ayant résisté plusieurs mois, les habitants de notre ville, à l'exemple des habitants de Montauban, eurent la lâcheté de changer. Mais le changement des pères et mères ne suffisait pas. Il fallait changer les enfants.
Je résistai quelque temps, mais sollicité par mes parents et par mon père pour se garantir de la persécution, j'eus le malheur de succomber. En me disant qu'on ne me demandait autre chose que d'aller à l'église, dire que je renonçais aux erreurs de Calvin. Mais après le premier pas, on voulut nous forcer d'aller à la messe et de communier à Pâques. J'eus encore la faiblesse de succomber à la tentation. Je fus communié, et d'abord après, je pris la résolution de me retirer à Genève.
Mais comme mon père et ma mère avaient beaucoup d'amitié pour moi, et que j'étais nécessaire à mon père dans sa boutique, qu'il m'avait déjà confié des achats, je crus qu'il ne fallait pas confier mon dessein, de manière que je partis le mois d'avril 1688, tout seul, de Saint-Antonin, à pied, avec 40 livres et 8 sous d'argent que je pris dans la caisse, n'en ayant pas voulu prendre davantage, m'imaginant que si j'étais arrêté en chemin, car les passages étaient gardés, l'argent serait perdu. Je me rendis à Castres pour prendre un de mes amis qui avait le même dessein que moi. Nous partîmes tous deux à pied et nous rendîmes heureusement à Genève le 13 mai 1688. Nous eûmes bien une petite peur en Dauphiné car, en passant à Tournon, nous rencontrâmes au milieu d'une rue Monsieur de Villette, gouverneur de notre ville de Saint-Antonin, qui, nous voyant à pied avec un petit sac chacun sur le dos, nous demanda où nous allions. Je répondis que j'allais à Lyon chez M. Larcher pour le servir dans son négoce, et mon ami lui dit qu'il allait à Paris chez un de ses oncles, qui était un des fermiers généraux. Mais il ne nous crut pas, disant « Si vous alliez où vous dites du consentement de vos pères, vous ne seriez pas à pied. » Je connais votre dessein. Vous sortez du royaume. »
Il nous conduisit chez M. de Nave, son oncle, qui était lieutenant général des troupes en Languedoc. Tous les deux étaient de notre ville et de la religion. Il fallut leur donner notre dessein et leur promettre de nous en retourner. Mais nous nous disions, si nous sommes arrêtés par les troupes qui gardent les passages, on nous ramènera à ces messieurs.
Nous partîmes de Tournon pour nous en retourner. Mais, ayant marché environ une heure le long du Rhône, nous trouvâmes un pont propre à passer en Dauphiné, où nous passâmes le Rhône, résolus de continuer notre voyage pour nous rendre à Genève. Lorsque nous fûmes près de Thun, vis-à-vis de Tournon, nous craignions d'être vus de ces messieurs, ce qui nous obligea de rester dans un champ où il y avait un tas de paille, jusqu'au lendemain, où nous arrivâmes à Lyon, de Lyon à Genève, en passant par la Savoie, sans aucun empêchement. Alors, nous fûmes remplis de joie de nous trouver dans Genève et nous rendîmes des actions de grâce à Dieu.
Une partie dont le père et puis les frères de Pierre Vieusseux sont restés à Saint-Antonin.
Oui.
Et vous m'avez dit, monsieur Julien, avoir retrouvé la maison qu'ils habitaient.
Et oui, avec beaucoup de précision. Les Vieusseux, orfèvres, et marchands en même temps, habitaient la maison qui est à côté du café Huisman, cette maison qui était autrefois le salon de coiffure La Garrigue. Et c'est intéressant de savoir que les Vieusseux habitaient là et que l'un de ses parents, sous la Révolution, se manifestera comme un ardent républicain.
Au cours de l'histoire, les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles ont souvent meurtri les Saint-Antoninois. Au XVIIe siècle, ils ont perdu la liberté de conscience. C'est peut-être ainsi que la violence a atteint son paroxysme.
Certainement.
C'est certainement une des blessures les plus profondes qui mettra le plus longtemps à se cicatriser.
Sûrement.
Avec cette belle lettre de Pierre Vieusseux, nous tournons la page du XVIIe siècle. Une page bien triste, bien noire. Une période décisive dans la vie de notre ville, où le mot « liberté » changeait de signification et était désormais subordonné au pouvoir central qui régnait à Paris. Et pourtant, une période passionnante, monsieur Julien. Pour tous ceux qui vous ont écouté et à qui vous avez su faire ressentir les sentiments les plus profonds qui animaient les Saint-Antoninois, leurs passions, leurs enthousiasmes, leurs craintes, leurs frayeurs, leurs désillusions, leurs déceptions, leur amertume et leur rancœur.